Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin, Sébastien de Courtois au micro de Chrétien d'Orient. J'ai le grand plaisir de recevoir enfin le père Najib pour une sorte de retour à Karakoch, cette ville du nord de l'Irak, ce que l'on appelle la plaine de Ninive, près de Mossoul, petite ville chrétienne qui sort à peine d'un long cauchemar puisque ses habitants commencent à y revenir après l'expulsion des forces de l'organisation État islamique. Vous venez de sortir un livre, un témoignage puissant, sous forme de mémoire. Alors vous allez m'expliquer si vous considérez que ce sont des mémoires, où vous confiez votre passion pour cette terre, ces hommes et ces livres surtout. Bonjour Père Najib.
Bonjour.
Alors vous n'êtes pas seul ce matin, nous avons aussi Romain Gubert qui dirige les pages internationales du Point, qui vous a accompagné dans cette aventure tant par l'écriture que par le voyage aussi, parce que Romain, vous êtes allé plusieurs fois faire des reportages dans cette région de Karakoch. Bonjour Romain.
Bonjour Sébastien.
Alors je rappelle et je commence par le titre de votre livre, Sauver les livres et les hommes chez Grasset. Quelle était votre ambition dans cet ouvrage, Père Najib?
En fait, c'est pour partager ce que nous avons vécu déjà et une expérience personnelle que j'ai vécue dans ce pays de l'Orient, l'Irak, l'ancienne Mésopotamie, avec les gens de l'Europe et les autres.
C'est-à-dire de faire connaître d'une manière plus pédagogique, peut-être, à un grand public, ce qu'a été votre vie et ce que représente la vie d'un prêtre irakien?
Absolument. C'est partager, c'est-à-dire dire aux autres ce que nous sommes, ce que nous avons vécu pendant 2000 ans dans ce pays-là, pas seulement moi, parce que moi je vous représente tout un passé aussi, et dire ce que nous avons dans le cœur et sur le cœur et dans notre vie, ce qu'on a souffert, les périodes positives, comment on voit la vie également malgré la souffrance. Et cette expérience, à mon avis, c'est quelque chose à partager aussi avec les autres, parce qu'un être humain, il n'est pas égoïste, doit être ouvert aux autres et partager ce qu'il a.
Vous êtes né à Mossoul?
Je suis né à Mossoul, à Ninive, l'ancienne Ninive, pas très loin des remparts de Ninive, 10 minutes de là où je suis né, bien que je suis originaire de Sanat, c'est un petit village adorable dans la montagne où il y a beaucoup de cascades, c'est sur la frontière turque mais du côté irakien.
C'est le nord de cette région irakienne, effectivement, où on sort de la plaine, donc on sort des grosses chaleurs, disons, de cette plaine mésopotamienne, et tout de suite c'est un petit paradis.
C'est la fraîcheur, c'est le vraiment un petit coin de paradis et qui est très très beau dans le Kurdistan actuel, mais c'est l'ancien Assyrie. C'est quelque chose de pittoresque, très très beau, et puis même les gens aiment bien la vie, partagent malgré les souffrances, on croit à la vie.
Alors vous êtes connu d'une certaine, bien même, parce qu'il y a eu plusieurs articles qui ont couvert votre épopée, l'épopée de Karakoch en tout cas, et surtout votre action de sauvegarde d'un patrimoine immense. Alors les spécialistes vous connaissent depuis pas mal d'années, parce que nous savons que vous avez œuvré dans l'ombre et dans le secret depuis les années 90, je crois, à la préservation de manuscrits, de livres. Alors vous allez nous expliquer un petit peu cette démarche. Et tout récemment, quand les forces de Daesh arrivent depuis Mossoul et vous le racontez très bien d'ailleurs, arrivent à Karakoch, vous avez ce réflexe de sauver les livres.
Absolument. Moi, je ne crois pas au hasard. Hein. Je crois beaucoup à la providence. Et sauver la mémoire de mes ancêtres, de la Mésopotamie, qu'elle soit chrétienne ou arabe, ou même juive, ou turcumane ou autre, yézidi. Et tout cela, ça fait partie de la mémoire de l'humanité. Donc, prévoir déjà le risque, c'est un don. Moi, je crois que le Seigneur m'a aidé beaucoup à prévoir cela. Et 10 jours, exactement 10 jours avant, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis tout dans un camion, plusieurs milliers déjà de documents, de manuscrits et les choses précieuses où j'étais à Karakoch à l'époque. Donc, je les ai mis à l'abri à Erbil. Et donc, pourquoi j'ai fait ça, jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, c'est un trésor sauvé, déjà, qui n'est pas le mien, qui est vraiment pour le monde entier. Et c'est important que ces documents, aujourd'hui, qui parlent de nos racines, de notre passé, si on les sauve, ça veut dire on sauve l'être humain d'aujourd'hui, qu'il ne va pas effacer sa mémoire, ce que Daesh essaye de faire, justement, d'effacer et détruire et déraciner la mémoire de ces peuples, ces ethnies, ces religions de jadis, notamment les yézidis et les chrétiens. Donc nous, on veut sauver ce qui a été détruit.
Ce que l'on comprend très bien dans votre livre, c'est que Daesh n'a rien de nouveau.
Pas du tout.
C'est que vous avez déjà, c'est pas votre premier déménagement que vous faites. Vous avez déjà été obligé de quitter Mossoul dans les années 2000.
Au fait, nos manuscrits, nos collections sont devenus nomades comme nous. Et c'est pas bizarre, c'est pas nouveau pour nous. C'est le pays d'Abraham qui était nomade aussi. Et nous aussi, on est toujours nomade, mais on peut pas aller qu'avec nos enfants. Mais on va aussi avec les nouveaux enfants. D'autres manières sont les livres et le patrimoine qu'on veut sauver ensemble.
Dès l'adolescence, écrivez-vous, un chrétien d'Irak comprend qu'il doit rester discret pour survivre. Mais à partir du début des années 2000, il ne suffisait plus de se faire oublier, mais de payer, de fuir ou de mourir.
Absolument. C'est l'ultimatum qui nous a été donné par l'État islamique, présenté par Daesh, bien sûr. Et cet ultimatum annoncé dans les haut-parleurs des mosquées de Mossoul, et il a dit aux chrétiens, spécifiquement parce qu'il n'y avait plus de yézidis, il avait massacré plus que 8000 hommes et kidnappé plus que 4500 femmes yézidis, réduits aux esclavages justement sexuels et autres, déshonorés. Donc les chrétiens étaient menés à choisir entre se convertir à l'islam ou partir ou mourir. On n'avait même pas le droit de payer le jizya, ce qui a été prescrit dans le Coran. Ils ont refusé cela.
Peut-être faut-il expliquer la jizya, ce que c'est.
La jizya, ça veut dire imposer une somme d'argent par force et en humiliant l'autre pour pouvoir seulement vivre dans le pays de l'islam et dans un but de se convertir plus tard. Donc c'est prescrit dans le Coran et dans le justement sourate 9 verset 29, 28 et 29, et il demande texto que les gens de livre, qui sont les chrétiens et les juifs, ont le droit de vivre et survivre donc dans un pays de l'islam à condition de payer le jizya. Ça veut dire c'est pas des impôts, hein, c'est vraiment et non pas des taxes non plus, mais prendre des par force. Un pourcentage des revenus par obligation, tout en étant humilié. Le texte dit il faut baisser la tête en le donnant. Et on me demande aujourd'hui pourquoi Daesh n'a pas fait quelque chose de nouveau. C'est qu'il y avait déjà des textes qui ont demandé cela. Et dire cela d'une manière qui n'existe pas, c'est contre-vérité.
Et ce phénomène d'insécurité commence, on le comprend encore dans votre livre, dès la fin de Saddam Hussein, enfin dès la même la période de Saddam Hussein, vous le dites très très bien, n'était pas, contrairement à ce qu'on croit, une période de sécurité pour les chrétiens, qui a eu une pression énorme, une pression sociale. Beaucoup de vos enfants, de vos frères sont morts sur le front de la guerre iranienne. Ils étaient envoyés en première ligne et puis il y a eu des exils constants. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est de cette genèse qui a amené à Daesh, qui n'est peut-être pas fini d'ailleurs, hein, cette genèse. D'où est-ce qu'elle se nourrit? Vous parlez de jalousie dans votre livre.
Au fait, la jalousie n'est pas une jalousie naturelle, c'est idéologique. C'est pour obliger l'autre à croire en ce que je crois et ce qui est contre et contraire aux droits de l'homme. Et aujourd'hui, c'est important de respecter le différent. Donc, imposer la religion, imposer l'idéologie sur l'autre et le contraindre à penser comme moi ou je le tue. Ceux qui ne croient pas en Dieu, il faut le tuer. Ceux qui ne croient pas en prophète de l'islam, il faut le tuer. Et tout cela, c'est dans des textes. C'est pas une utopie. C'est pas contrairement à ce qu'on dit souvent en Europe, tout est beau, tout est gentil, tout est. Il faut aller scruter les textes et comprendre. C'est beaucoup de choses qui sont contre le droit de l'homme. Et aujourd'hui, on essaye d'imposer cela. Et nous, comme chrétiens d'Orient, on a vécu cela. Et j'ai beaucoup d'amis musulmans, sont très sympathiques, très très gentils, mais sont prisonniers de cette idéologie quelquefois néfaste qui est de 7e siècle qu'on peut aujourd'hui l'appliquer au 21e siècle. Donc, c'est pas normal, ça marche pas. Ces choses-là, ça pourrait être marché à cette époque-là. Ça a été accepté, mais aujourd'hui, comment on peut se comporter avec cela? Donc, c'est important de vivre ensemble, de partager les choses et regarder l'homme avant de regarder la religion.
Lorsque j'étais enfant, écrivez-vous encore, les chrétiens et les musulmans se parlaient et se fréquentaient. Ils partageaient des traditions communes, des superstitions et craignaient les mêmes divinités, les mêmes mauvais esprits.
Absolument, absolument. En fait, on a été élevés ensemble. On a la même origine, on a des voisins, on a des copains à l'école.
Et la même langue déjà.
La même langue. En fait, la langue, ça veut dire qu'on a appris l'arabe parce que les chrétiens ne sont pas arabes de souche. Nous sommes des araméens. Nous parlons encore l'araméen, qui est la langue de Jésus-Christ, utilisée là depuis 3 millénaires au moins. Et nous l'avons aujourd'hui comme une langue nouvelle qui nous dissocie, qui nous voit, hein, que nous ne sommes pas des Arabes de souche. Mais on cohabite ensemble, on vit ensemble, on parle l'arabe, le kurde, on parle l'anglais, donc on est presque polyglotte, si vous voulez. Mais vivre ensemble, partager le même destin ensemble, c'est très beau. Mais malheureusement, il y a le fanatisme qui vient pour dissocier les gens des uns et séparer les gens des uns des autres. Donc, nous, on essaye avec, il y a pas mal de musulmans intellectuels aujourd'hui, même des moullahs, vraiment épanouis, qui sont ouverts grâce aux médias, hein, ou à l'Internet et autres, qui commencent à réfléchir comment mettre en pratique des textes aujourd'hui qui unissent les hommes ensemble et mettent de côté ce qui nous sépare. Et c'est pas facile. Et souvent, ces gens-là, intellectuels, ouverts, qui acceptent justement l'autre tel qu'il est, d'une religion différente, d'une ethnie différente, ils sont exempts, sont persécutés très souvent. Ils sont obligés et menés à quitter leur pays parce qu'ils pensent pas la même chose que les fanatiques.
Alors je rappelle ce qui nous lie justement ce matin, Sauver les livres et les hommes, votre livre qui vient de sortir aux éditions Grasset. Alors je suis avec le père Nagy, mais je suis aussi avec Romain Guber. Alors vous avez, bonjour Romain, à nouveau, vous avez voyagé et accompagné le père Nagy dans ce voyage. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette vie particulière?
Dans la vie du père Nagy, c'est un peu cette douceur. On est dans un monde de fracas, hein. Il y a une guerre gigantesque avec des centaines de morts. On a tous vu ces images de Mossoul ou de Karakoche assiégés. Et de voir cet homme qui se préoccupe des livres, il y a un petit côté troublant de toute façon. On voit des gens qui ont tout perdu, des exilés, des réfugiés, des hommes en armes partout. Et on voit quelqu'un qui s'attache aux manuscrits. Et là, forcément, on se dit, tiens, voilà, quelqu'un qui a une histoire singulière. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans, la première fois, dans un des camps de réfugiés dont s'occupe le père Nagy, parce qu'il ne le dit pas, mais il s'occupe de beaucoup de familles. Il a réussi à rassembler plusieurs immeubles à Erbil, où il s'est occupé de familles, pas que des chrétiens d'ailleurs, des yézidis aussi. Et voilà, il était dans une espèce de cave dans laquelle il continuait son travail de numérisation de ses manuscrits du 12e, 13e, 14e siècle. Et c'était un peu ce contraste entre la guerre tout autour et puis cet homme qui se préoccupait de que cette terre ne devienne pas un cimetière de livres, parce que Daesh brûle les livres. Et puis beaucoup de réfugiés n'ont plus se disent à quoi bon sauver les livres. Il est souvent l'objet de pas de critiques, mais d'un peu d'incompréhension, même dans le monde chrétien, de dire attends, on a nos familles à sauver, on doit s'exiler en Europe, on doit reconstruire nos villes. Laisse tomber tes livres, on a mieux à faire.
Vous êtes journaliste en presse écrite, vous travaillez pour le Point, vous êtes particulièrement sensible à cette transmission par l'écrit justement de l'information, mais là on parle de manuscrits beaucoup plus anciens. Vous avez vu ces textes, vous avez vu ces bibliothèques sauvées?
Alors j'ai eu ce privilège, j'ai malheureusement vu les deux choses. J'ai vu les bibliothèques du père Nagy, parce qu'il cache ses manuscrits dans un lieu dont on taira, qui se trouve à Erbil, mais je n'en dirai pas plus, parce que ce sont des collections inestimables avec des textes qui font envie à des tas de trafiquants. Et j'ai vu aussi, malheureusement, on est allé à Karakoche avec le père, ou dans des monastères à Marbenham, où les bibliothèques ont été systématiquement brûlées. Et donc on est dans la cour de leur petit couvent. couvent à Caracoche, eh bien, ça n'est qu'un amas de cendres. Il y a eu un auto-da-fé de toute la bibliothèque, plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages qui ont été brûlés, laissés à l'abandon. Et donc, on retrouve, on s'est promené, on a cherché un peu comme des gens de la police scientifique des preuves. Et malheureusement, on est tombé sur beaucoup de livres imprimés, mais beaucoup de manuscrits aussi, des fragments et des choses qui... Le père était terriblement troublé, et on ne peut pas ne pas être troublé quand on trouve justement ces traces de crime, parce qu'il s'agit d'un crime gratuit et stupide de brûler des livres. On l'a vu dans d'autres périodes de l'histoire.
Père Najib, je me tourne vers vous maintenant. On voit dans votre confession, pardonnez-moi le mot, qu'il y avait des Corans aussi dans ces textes que vous avez sauvés.
Absolument. Il y avait même Sahih al-Bukhari, il y a des hadiths, il y a des références islamiques. Parce que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, c'est le manuscrit, ce qui est écrit. Parce que c'est la mémoire de la Mésopotamie. C'est très important. Moi, je ne distingue pas les êtres humains les uns avec les autres. Et je mets toujours en priorité l'être humain que je respecte, qui mérite être respecté, parce que selon notre foi, c'est Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc on doit nettoyer ce visage déjà défiguré par les fondamentalistes ou les idéologues qui commencent à défigurer cette image-là. Donc vivre ensemble, partager ensemble, sauver ce patrimoine ensemble, c'est une mission, à mon avis. C'est une mission. Et comme dit Romain, très bien, c'est vraiment un crime contre la culture et contre l'humanité en brûlant les livres. Et quand on fait des auto-da-fé, comme à l'époque d'Hitler, aujourd'hui c'est pire que Hitler. Hein. Ce qui se passe actuellement avec l'État islamique, c'est catastrophique. Il y a des manuscrits de 9e, 10e, 11e siècle, il ne reste plus rien que des cendres. Et donc, sauver cela... In extremis, à la dernière minute, c'est vraiment providentiel et c'est important pour les futures générations et pour dire la culture, c'est notre racine. Et sauver les racines, ça veut dire sauver l'arbre. Aujourd'hui, si on veut sauver l'arbre, sauver ces gens qui sont persécutés, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou yézidis, c'est il faut respecter leurs racines pour continuer à vivre.
Vous êtes prêtre irakien, vous appartenez à l'église chaldéenne. Comment vous voyez cette mission par rapport au livre? C'est une vocation? Comment ça vous est arrivé? Votre famille est une famille de lettrés, par exemple, ou...
Non, pas forcément. C'est vraiment une famille, cultivée. Mais ils ne savaient pas lire ni écrire, mon père et ma mère. Hein. Mais nous sommes une famille moyenne de 4 sœurs et 4 garçons. Donc c'est moyen en Orient. Et j'ai beaucoup aimé justement la culture. Et en lisant, c'est pourquoi j'ai laissé un peu mon travail dans le pétrole pour me verser plutôt dans les recherches intellectuelles. Et par le biais de l'ordre dominicain qui est un ordre de prédication, un ordre de prêcheur, c'est il faut lire, il faut connaître beaucoup de choses sur les religions, sur l'histoire, sur le passé, pour pouvoir vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est la culture qui va sauver notre monde. C'est la tolérance d'accepter le différent qui va sauver notre monde. Et c'est le contraire de ce que Daesh veut faire et qu'il essaye d'imposer. C'est faire un monde uniforme. Et c'est catastrophique pour notre monde. Aujourd'hui, il faut vivre comme cette espèce de mosaïque multicolore, très très beau, qui va nous raconter notre histoire et préparer notre avenir. Donc réduire notre monde à une seule couleur, c'est catastrophique. Et en même temps, ça va défigurer la réalité.
Romain Gubert, vous pensez que les chrétiens vont revenir dans la plaine de Ninive ?
Alors dans la plaine de Ninive, c'est très compliqué. Quand vous allez à Caracoche, Daesh a brûlé, détruit la plupart des maisons. Il y a un problème d'argent, parce que pour reconstruire ces maisons, il faut des fonds considérables. Et les chrétiens, depuis 2, 3, 4 ans, ont mangé toutes leurs économies. Et donc, ils n'ont plus les moyens de reconstruire les maisons. Alors, il y a quelques familles qui sont venues, parce qu'elles étaient particulièrement mal logées à Erbil. Mais c'est extrêmement compliqué. Il n'y a plus de services publics, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. Même si beaucoup d'humanitaires travaillent dans la région, c'est compliqué. Et puis, ces chrétiens sont épuisés. Depuis 2003... ils ont subi toutes sortes de catastrophes et beaucoup, je sais que le père n'aime pas qu'on en parle, mais beaucoup ne rêvent plus que d'une chose, c'est de venir en Europe. Ils demandent des visas. Alors l'Église sur place, c'est compliqué pour elle parce qu'elle peut, elle ne peut pas les encourager à partir. Elle ne peut pas leur dire de rester parce qu'elle sait que la situation est terrible quand vous avez des enfants. Qu'est-ce que vous faites? Vous pensez à leur avenir. Et donc, comme le Canada, l'Australie, l'Allemagne offrent beaucoup de visas, beaucoup veulent partir. Et ce que le père dit dans une partie du livre, c'est très fort. C'est partez s'il n'y a rien d'autre à faire, mais gardez vos maisons, gardez votre histoire, gardez votre passé. Ne laissez pas ce passé, parce qu'il y a, aussi un formidable message d'espoir dans ce qu'il dit. C'est que les chrétiens ont leur place là-bas, même si c'est compliqué, même si voilà, ils ne doivent pas partir et tourner le dos à cette histoire qui sont les premiers chrétiens. On l'oublie, on vous dit chrétiens d'Orient, mais c'est les premiers chrétiens. Le christianisme n'a pas été inventé par Rome, et même si nous sommes nous Européens parfois nous avons le sentiment de détenir la vérité du christianisme, non, c'est plus compliqué que ça. Et votre émission est formidable pour ça. C'est que là nous avons d'autres chrétiens avec d'autres cultures, d'autres rites qui, voilà, ce serait évidemment extrêmement dommage qu'ils soient obligés tous de fuir dans des contrées plus accueillantes, plus sereines, plus pacifiques.
Père Najib, vous l'évoquez d'ailleurs, cette terminologie de chrétien d'Orient ne vous plaît guère.
Parce qu'au fait, c'est chrétien du monde, au fait. Chrétien, parce qu'on est toujours en Orient de quelqu'un, ou on est en Occident de quelqu'un d'autre. Donc, il faut ouvrir les frontières. Moi, j'aime pas beaucoup les frontières. Hein. Il faut avoir un monde beaucoup plus ouvert, beaucoup plus élastique, qu'on accepte les uns des autres et on garde cette mission vraiment d'espoir et donner l'espoir pour ces gens qui sont là depuis 2000 ans et on va rester pour toujours, j'espère.
Que voulez-vous dire à ces chrétiens d'Irak pour rester chez eux?
À ne pas avoir peur. Au fait, même s'ils sont contraints et obligés de venir en Europe et en Australie, en Amérique, partout, moi, ça me gêne pas du tout parce que nous sommes devant une tempête. Une tempête qui commence à porter ces gens ailleurs et loin de chez eux. Mais je suis sûr qu'ils vont porter de bons fruits. Donc c'est une chance aussi pour la France et pour l'Europe d'accueillir ces chrétiens, parce qu'ils ne sont pas des terroristes. On n'a jamais entendu d'un chrétien qui est devenu kamikaze. Hein. Et donc ce sont des gens qui cherchent la culture, qui sont pacifiques, qui respectent le pays qui les accueille. Ils ne vont pas insulter ce pays qui les a accueillis, donc ils vont bâtir les pays dans lesquels ils sont accueillis. Et donc aujourd'hui, partir, c'est bien, mais rester, c'est encore meilleur et donner l'espoir.
Sauver les livres et les hommes, le père Najib avec Romain Gubert qui est chez Grasset, disponible dans toutes les bonnes librairies. Je remercie Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Alain Joubert pour la réalisation de cette émission que vous pouvez retrouver en balado-diffusion sur le site internet de France Culture. Nous retrouvons le service protestant avec Michel Schaeffer. Merci.